Ce singulier prélude a pour effet d'amoindrir notablement le trac des jeunes candidats, qui se succèdent maintenant à tour de rôle. Ils sont tous très beaux de visage, très photogéniques, comme on dit populairement, avec un sourire éclatant, malgré une timidité palpable. Mais leurs mouvements sont souvent désordonnés, voire erratiques, parfois disgracieux. La plupart n'ont lu que leurs répliques. Ils sont dans l'ensemble assez mal préparés à cet examen et ne comprennent pas forcément très bien le contexte. La séance reste cependant charmante et vivante. Le très affectueux metteur en scène met d'ailleurs son monde à l'aise et provoque de temps à autre des manifestations de joie dans le jeu des questions-réponses. Il a soigneusement évité de faire passer le garçon à l'extrémité du 7e rang du côté court, dans les premiers, pour ne rien laisser deviner de cet espoir qu'il garde secrètement par-devers lui. Il ne l'appellera qu'en antépénultième place, de manière à lui épargner également la dernière position, quitte à rendre plus difficile encore le passage des deux derniers prétendants, qu'il va d'ailleurs écourter avec élégance, sans que ce soit visible ni dérangeant pour personne, clôturant ainsi la session. À son nom, la vedette, tant attendue du metteur en scène, se lève lentement de son siège, se retrouvant immédiatement dans la petite allée. Le réalisateur se tourne légèrement vers lui pour le voir, geste qu'il a pu exécuter aussi pour d'autres concurrents. Le jeune acteur oriente alors instinctivement son regard vers son père, pour lui faire un petit signe d'adieu, comme s'il partait en voyage. C'est certainement une astuce pour montrer sa joue droite, car il s'est fait teindre une petite mèche de cheveux, en blanc, vers le bas de l'oreille, qui ne peut pas passer inaperçu. C'est là une trouvaille formidable, ne faisant absolument pas partie du script. Invention d'autant plus émouvante qu'il est pour ainsi dire impossible d'en déceler, sur le moment, une signification même approchante, et laisse pour l'instant le champ libre au rêve, à l'imagination, voire à la fantasmagorie. Son magnifique pull-over rouge uni attire l'attention au moment où il gravit doucement les degrés de l'escalier portatif qui mène à la scène, même si c'est écarlate et quelque peu assombri par une lumière insuffisante que les techniciens ne se permettent évidemment pas de modifier en sa faveur pour ne pas faire de favoritisme. Dès son arrivée devant le micro, il entre spontanément dans son rôle de composition. Il ne lui a pas échappé que le directeur artistique attend toujours quelques secondes pour contempler le nouveau candidat avant d'engager la conversation, ce qui a d'ailleurs permis à l'insolite musicien de parler en premier. Il a donc l'idée d'utiliser ce moment précieux pour jouer d'emblée son futur personnage, ce qui a tendance à rallonger cet instant de silence magique. Son visage s'approche alors peu à peu du micro, puis il murmure, en hésitant et balbutiant, interprétant une panique intérieure maîtrisée, en direction du metteur en scène qu'il n'a pas quitté des yeux depuis le début. « Vous voulez me parler ? Do you want to tell me something ?» À l'exception de quelques initiés investis de l'ambiance contextuelle, personne ne peut appréhender qu'il s'agit là d'une répartie fondamentale qui arrive à un moment crucial du drame en train de se dénouer. La justesse de ton envoûte d'emblée le réalisateur, qui pressent d'ores et déjà qu'on ne pourra guère faire mieux lors de l'enregistrement. Le dialogue qui suit n'a pas de structure. Par une sorte de connivence instantanée, on passe sans transition du coq à l'âne. Ce sont différents moments du film. Le jeune prodige étonne par la variété de ses expressions. Il élude spontanément toute espèce de tristesse qui solliciterait trop intensément la sensibilité des spectateurs, mais accentue sur la colère, ou la peur. Il va jusqu'à hurler des mots répétitifs, de façon assez effrayante. Il connaît toutes les scènes pour ainsi dire par cœur, et sait improviser quand il a oublié le détail des mots. Puis, revenant tous deux à la réalité de l'audition, il explique qu'il a lu 3 fois le scénario en entier, ce qui est exceptionnel pour un enfant de cet âge. D'une manière assez inattendue, le directeur artistique évoque sa petite mèche, sous l'oreille droite. Le mensonge évident du gamin accentue son immense séduction. « J'ai eu un accident », explique-t-il sans hésiter, ce qui fait sourire ses parents dans la pénombre du 7e rang. Cette notion très vague d'accident, sans autre précision, peut être suggérée par un adulte ou par la seule intuition. Tout cela est très difficile à savoir avec certitude et très bien trouvé, car d'une part, elle est susceptible de créer une manifestation physique visible, et d'autre part, elle peut justifier l'émergence de quelques dérèglements, et donc aussi d'un don tout à fait particulier. Comme il comprend que tout doit aller vite, et qu'il faut procéder par éclairs pour convaincre, il ajoute qu'à 16 heures perdues, il crayonne quelques dessins de script board. Ce mot fait tilt dans la tête du metteur en scène. Il entend un râle sourd d'admiration en provenance du musicien. Il se retourne vers lui. Il se sourit largement dans une grande complicité immédiate. On appelle script board le croquis des plans successifs du film, à la manière d'une bande dessinée. Ce sont des esquisses tout à fait rudimentaires, en général au crayon de papier, donc en noir et blanc, qui permettent de positionner les personnages et les objets, quels qu'ils soient, rue, immeuble, porte, fenêtre, entrée, mur, tableau, miroir, table, chaise, placard, ce qui donne une idée précise de la mise en scène future, dans le respect des proportions relatives des éléments, tant animés qu'inanimés. Il fallait que cet enfant, et probablement le compositeur français, si l'on en juge par sa réaction émerveillée, soit très bien renseigné pour savoir que ce cinéaste précisément concevait préalablement le film, ce qui est immensément rare, puisque c'est un travail énorme, jugé fastidieux et inutile par la plupart des réalisateurs, dont certains vont même jusqu'à dire qu'ils préféreraient aller chez le dentiste sous forme de rectangle, représentant la suite des positions et des mouvements d'acteurs dans un décor précisé, parfois complété d'annotations marginales pour mémoire, avec ses justifications qu'il devait connaître également, selon lesquelles le film ne pourra pas être plus mauvais que le script board, et que c'est là une façon de tourner le film avant le tournage. L'audition de la future star prend maintenant fin. Elle est plus que probante, mais le réalisateur n'a pas trop affiché sa préférence pendant cet échange. Malgré son contenu inédit et surprenant, il est resté modéré dans l'enthousiasme de ses réactions. Personne n'est évidemment dupe de ce détachement apparent, d'autant plus que le public plébiscite lui-même in petto l'émouvante prestation du jeune artiste, lequel enfonce définitivement le clou par un geste fort inattendu, qui signe en quelque sorte sa victoire. Loin de quitter la scène par le côté court d'où il est venu, pour rejoindre ses parents, comme l'ont fait tous les candidats précédents, il se dirige au contraire vers l'autre escalier, qu'il descend tranquillement, à l'étonnement de tous. Il emprunte la petite allée devant lui, non sans une certaine majesté, et s'installe sur le premier fauteuil du 8e rang à droite, à côté d'une jeune femme, qui l'accueille par un magnifique sourire de complicité. Nous ne saurons jamais pourquoi cette dame, d'ailleurs accompagnée d'un homme un peu plus âgé qu'elle, s'est assise à la deuxième place de cette rangée, laissant libre la première, une préméditation étant impossible à imaginer. Toujours est-il que le garçon a identifié là une actrice, et a rapidement compris durant son passage sur scène, par une sorte d'intuition inexplicable, qu'elle serait sa mère dans le film à venir. Bien qu'elle ait les cheveux presque courts, à la garçonne pour ainsi dire, tout en restant assez féminine, et qu'elle n'ait pas encore d'enfant dans la vie, elle le reçoit immédiatement comme son propre fils. Elle lui met la main dans les cheveux quelques instants, dans un doux frétillement maternel, sur le dessus de la tête. L'enfant se laisse ainsi cajoler par elle, en regardant plutôt à l'opposé, faisant mine d'ignorer le compliment, et le rendant par là même le plus naturel du monde, tout en jouant d'ores et déjà son rôle de fils. Il voit alors la plupart des spectateurs, souriants et tournés vers lui, notamment le musicien et le metteur en scène, qui sont maintenant dans son champ direct de vision, et qui n'ont pas perdu une miette de cette étonnante sortie, qui a transféré pour un moment le spectacle, de la scène vers le fauteuil qu'il a choisi. Quant à l'homme situé à gauche de cette comédienne, il n'est autre qu'une illustrissime vedette de cinéma, qui va interpréter le rôle principal du scénario. C'est tout à fait par hasard s'il se trouve ces jours-ci dans cette ville, et peut faire l'honneur de sa présence évidemment très appréciée dans ce théâtre, à la faveur d'un agenda clément. Le garçon l'a facilement reconnu sans en faire ostentation. Juste après les deux dernières audiences, qui closent cette session de fin d'après-midi, la très aimable assistante s'empresse d'aller vers le musicien pour lui donner un carton d'invitation au repas de gala qui aura lieu le soir même, à 20h, dans 2 heures environ, dans un hôtel très chic, situé non loin de ce théâtre. Elle lui explique que c'est à 2 encablures, en sorte qu'on y accède à pied en quelques minutes. Comme elle ne voulait pas lui demander son identité, elle avait simplement notifié sur cette carte, dans une jolie écriture calligraphique, la mention French Compose, compositeur français. Elle ajoute incidemment que c'est une soirée très simple, sans tralala, précise-t-elle en français, et qu'il n'a aucunement besoin de mettre une cravate, ce qui signifie en langage diplomatique qu'une chemise mieux repassée et un petit coup de peigne serait tout à fait bienvenue. Le message est entendu 5/5, dans un grand sourire, l'orchestrateur lui répond « J'ai repéré un coiffeur dans une petite rue à côté. Je suis un fantôme ici. J'ai agi par intuition sans même imaginer que je serais entendu. Je suis là par hasard. Merci à vous, et à tout à l'heure. » Connaissant l'exactitude horaire quasi maladive de certains artistes français, le personnel du palace, averti entre-temps par téléphone d'un nouvel invité imprévu, ne prend aucun risque et se met sur un pied de garde dès 20h sonnantes. Mais le musicien ne se permet pas de se présenter exactement à l'heure dite, de peur de déranger ou de passer pour un maniaque. Il arrive tranquillement avec un bon quart d'heure de retard, ce qui ne l'empêche pas d'avoir, malgré tout, un quart d'heure d'avance sur tout le monde. Il est le premier arrivé sur les lieux. Il est immédiatement reconnu et reçu avec les honneurs. On l'installe à une table provisoire, car le directeur de l'établissement préfère attendre l'organisateur, en la personne du metteur en scène, avant d'ouvrir les portes de la grande salle, où aura lieu la réception. La maison commence par offrir au musicien un apéritif de son choix, qui sera servi bien tassé. Il est évident que des instructions ont été données pour le mettre à l'aise, probablement aussi pour augmenter les chances d'en savoir un peu plus sur lui, sans avoir à poser de questions, étant donné que, comme dit un adage latin, bonum vinum laetificat cor hominum, le bon vin réjouit le cœur des humains. L'enfant au pull au vert rouge et ses parents ne tardent pas à arriver, d'un coup d'œil furtif. Ils se sont simultanément reconnus sans le montrer. D'autres invités font maintenant leur apparition avec le cinéaste, remplissant petit à petit le grand hall. Dans un paisible brouhaha, ils sont aimablement accueillis par différents personnels de service très souriants, On ouvre alors la porte de la grande salle de réception, somptueusement préparée. On vient peu après annoncer à l'orchestrateur, qui attend patiemment à sa table, que la soirée va commencer dans quelques instants. On l'accompagne car les places sont prédéfinies. Tout a été minutieusement organisé. Le salon est immense. La grande table des officiels se trouve devant la scène, où une formation jazzy avec piano susurre une douce musique de fond. Toutes les tables sont installées avec carton nominatif. Les divers personnels de l'établissement aident les enfants et leurs accompagnateurs à trouver leur place. Les jeunes candidats ont tous des cadeaux personnalisés en remerciement de leur participation. De jolis paquets de différentes tailles, ficelés de souples rubans, se situent à côté de leur assiette, ce qui multiplie les sourires et les regards émerveillés. Quant à l'enfant du 7e rang, qui a ébloui son monde par son émouvante prestation, son cadeau sera celui d'être mené à la table des officiels. C'est ainsi qu'il comprendra, sans qu'on le lui dise, qu'il a été sélectionné pour le rôle, ce que tous les spectateurs avaient compris de toute façon. Il est dos à la scène. Ses deux mères sont avec lui, la vraie à sa droite et la comédienne à sa gauche. Le compositeur français sera installé juste en face de lui. Le cinéaste préside en bout de table à la droite du musicien. La grande vedette du futur film est assise à la gauche de la comédienne. Le père de l'enfant à côté de son épouse, la sympathique assistante à la droite du musicien, à côté du jeune traducteur improvisé, qui semble ne pas en revenir d'être là, par hasard, juste en face d'une star du cinéma. Dans ces conditions de joie générale et d'accueil festif, les candidats ne se sentent pas recalés, d'autant moins que des professionnels vont venir parlementer avec certains d'entre eux, durant le dîner, à propos de possibilités diverses, sur d'autres projets à venir liés à la profession, ce qui explique la présence de chaises vides çà et là, réservées à ses visiteurs. À la table des officiels, de loin la plus silencieuse, on se sourit, on s'épie amicalement, le réalisateur se montre ravi du franc succès de sa soirée très réussie, personne ne pose de questions, rien ne presse, on mange et boit pensivement, on se laisse bercer par les suaves arpèges de fond, joués discrètement en direct, sur la scène aux douces lumières tamisées. À un moment donné, le compositeur semble être sur le point de dire quelque chose à l'enfant, mais se rétracte finalement. C'était peut-être un conseil d'interprétation, ou un piège à éviter dans une séquence. Il se peut que son anglais incertain l'ait fait hésiter, dans l'hypothèse où il ne lui aurait pas parlé en français, ou encore qu'il ait craint que sa remarque soit diversement appréciée, selon l'adage latin, sous tort né supra crepidam, cordonnier pas au-delà de la semelle. Quelques instants après, la vedette qui se trouve être en face du jeune traducteur improvisé, dit avec un sourire quelque peu espiègle, se tournant vers le metteur en scène qui préside en bout de table sur sa gauche, « There are two ghosts here. Il y a deux fantômes ici. » Bien que murmuré, le musicien a pu décrypter ce commentaire et chuchote à son tour à l'assistante sur sa droite « But where the ghosts go ?»« Mais où vont les fantômes ?» Sans doute en référence à un ancien film britannique. Malheureusement, cette délicate secrétaire ne le connaît pas. Elle n'a pas lu non plus le scénario. Elle n'en a pas eu le temps, et d'ailleurs ce n'est pas son travail. Elle ne peut donc pas saisir l'éventuel sous-entendu, mais fait mine d'avoir compris par politesse. Le cinéaste aimerait enchaîner et engager la conversation sur ce thème avec le compositeur, mais il préfère finalement attendre une occasion plus favorable. La soirée ne fait que commencer. Les échanges ne sont pas assez nets. Ce ne sont pour l'instant que bribes susurrées. Une sorte de langage indéterminé. Il contemple parfois avec admiration sa nouvelle recrue, qui ne fait aucunement gloire de son succès, en restant simple et réservé. La timidité et la politesse des enfants. Il sait déjà qu'il l'invitera au tournage des scènes où il ne joue pas, pour fortifier son professionnalisme naissant, lui donner une meilleure vue d'ensemble de l'œuvre à venir, ce qui améliorera aussi ses réponses lors des interviews annexes, et aussi tout simplement parce que sa présence à la fois sérieuse et calmement souriante lui est chère. Ce n'est qu'au moment de la pause de la formation de Jazzy que le musicien, quelque peu éméché par un excellent vin rouge californien, servi à discrétion par des maîtres d'hôtel attentifs et soucieux du confort des invités, se met à parler spontanément, à raconter ou à se raconter, à la grande joie du metteur en scène, qui n'attendait évidemment qu'une intervention franche et circonstanciée de sa part. Le public, qui fait peu à peu silence, se contente d'écouter la musique des mots, dont certains sont traduits en américain par l'orateur lui-même, parfois appuyés par le jeune interprète, qui murmure une idée directrice au réalisateur. Pour éviter trop de confidentialité, celui qui devient maintenant professeur se lève, de manière à s'adresser à l'ensemble de l'assistance. Il fredonne quelques notes, à titre d'exemple pour étayer sa démonstration. Seul un homme presque chauve, possiblement le compositeur pressenti, ou déjà déclaré, de la musique du futur film, quelque peu intrigué par ce cours magistral insolite, mais charmé par la magie du phrasé, est à même de reconnaître, pour le début, l'arpège ascendant fa la do fa du fa mineur. Il voit immédiatement les quatre bémols à la clé sur la partition. Mais personne ne peut savoir s'il s'agit d'une œuvre personnelle ou d'une pièce dûment répertoriée, surtout dans ces conditions d'interprétation d'extrême lenteur qui donnent l'impression de planer dans le cosmos. Les plus mélomanes peuvent simplement dater la stylistique, soit à la fin du baroque, soit au début du classique. On cherchait là à mettre en exergue qu'un systématisme ne peut pas s'accompagner d'un lentissimo, du fait d'une prévisibilité presque sans faille, même pour un béotien. Aucune énigme ne peut justifier une information auditive trop espacée, à la manière de la récitation d'une table de multiplication qui n'offre aucun accident, ni hasard, ni surprise d'aucune sorte, alors qu'un désordre savamment erratique, dans la suite des sons d'un agencement sonore équidistant, peut recéler des messages cachés. Des prières, des espoirs, des hésitations, des incertitudes, ou, à contrario, des affirmations, des illuminations, des joies. Tout en réfléchissant tout haut de sa voix calme et chaleureuse, il donne d'ailleurs l'impression de s'entretenir avec lui-même, tout en impliquant généreusement son auditoire dans son analyse, dans une sorte d'invite au questionnement. Il s'avance lentement vers la scène, sans qu'on puisse lui supposer l'intention d'y monter, étant donné qu'il fait maintenant face à son public, à qui il s'adresse aussi, malgré tout. Mais cette proximité l'interpelle sans doute. Le coin de son œil ne peut ignorer le piano, même faiblement visible sur le podium éteint. Et soudain, stoppant l'énoncé littéraire de sa preuve, « Je ne suis pas pianiste, dit-il, mais j'aimerais vous montrer ce cas particulier. » Et bien avant qu'on puisse comprendre la phrase, et que les jazzmen, qui écoutaient interloqués dans la pénombre de l'arrière-scène, aient le temps de venir l'aider à accéder aux planches surélevées, l'artiste dépoussière les genoux de son pantalon, comme un enfant qui vient de tomber, et s'installe au piano pour y égrener d'un air rêveur et presque absent. Des notes suaves et indolentes. Aux trilles et appoggiatures disséquées, d'où s'échappe pendant quelques minutes une mystérieuse et indicible sérénité. L'histoire suivra son cours normal. La jeune vedette brillera par une interprétation d'une rare sensibilité, laquelle sera largement ovationnée et officiellement primée. l'admirable musique somptueusement et intuitivement élaborée par le compositeur français sera adaptée en utilisant les procédés techniques sophistiqués des studios d'enregistrement professionnels, et le film, d'abord timidement proposé par son réalisateur dans divers lieux privés de projection, à l'intention d'amis, de connaissances, de cinéphiles passionnés et autres déchiffreurs d'énigmes, sera ensuite mis à l'affiche dans les grandes salles. Il sera évidemment traduit dans plusieurs langues et bénéficiera d'un très ample succès bien mérité, qui coïncidera d'ailleurs, par un pur hasard de calendrier qui ne manquera pas d'être incidemment souligné, avec le 27e anniversaire de son créateur. Paris, janvier 2013-avril 2014. Thank you.